Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis heureuse de vous retrouver sur notre merveilleuse radio Fréquence 7. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à partir avec moi dans le monde imaginaire des contes et des histoires? Quand je dirai « Il était une fois », vous saurez que tout est possible. Les arbres et les animaux parlent, les trésors et les bassesses humaines flirtent avec les êtres enchantés, quel que soit le pays où se déroule mon histoire. Aujourd'hui, nous partons chez les Indiens d'Amérique. Vous êtes prêts? On commence avec un conte Lakota. Il y a de cela bien des générations. Les Lakota, qui vivaient encore au bord d'un grand lac tout à l'est, affrontèrent un hiver terrible. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de neige et jusqu'au plus profond de leur lit, les rivières étaient gelées. Il faisait si froid qu'on entendait le craquement sec des arbres dont le cœur se fendait. La nuit, les hommes grelottaient malgré les monceaux de fourrure qu'ils entassaient sur eux et le feu des tipis. Les bisons semblaient avoir quitté cette région pour toujours. Les chasseurs s'enfonçaient de plus en plus loin dans les bois, mais ils revenaient les mains vides et les femmes et les enfants pleuraient de faim. Quand enfin le printemps arriva, la tribu épuisée décida de quitter ce territoire exposé à la colère de Wazigwa, l'esprit du Nord. Elle partit dans la direction où le soleil se lève, à la recherche d'une meilleure terre. Une terre où régneraient les battements d'ailes des premiers jours de création. Les bagages furent vite prêts. Il restait si peu de choses à emporter. On attela aux travois les quelques chiens qui n'avaient pas été mangés. Les hommes prirent la place de ceux qui manquaient, et la tribu se mit en marche. Deux hommes envoyés en éclaireur marchaient loin devant. Ils étaient complètement différents l'un de l'autre. L'un était courageux, bon et généreux, l'autre brutal et cruel. La tribu épuisée avançait lentement. Les femmes portaient les petits-enfants et les hommes tiraient leur chargement. À la fin de la journée, les deux éclaireurs réussirent à tuer un daim. Comme ils pensaient que la tribu parviendrait à atteindre la colline où ils se trouvaient pour le camp du soir, ils laissèrent leur gibier sur place. Ils allaient repartir chasser, quand l'un d'eux soudainement se retourna. Ils distinguèrent une silhouette de femme dans la brume qui enveloppait le sommet de la colline. Ils la regardaient, stupéfaits, et soudain la brume se dissipa. Une ravissante femme aux longs cheveux s'avançait vers eux. Elle était vêtue d'une robe de daim blanche, des bracelets de feuilles de sauge encerclaient ses poignets et ses chevilles. Au creux de son bras gauche, elle portait un paquet, soigneusement enveloppé dans une peau de bison rouge. Elle avait un carquois sur le dos et tenait dans sa main droite une poignée d'herbes sèches. Dès qu'il la vit, l'homme cruel désira la jeune femme. Son compagnon le supplia de ne pas la toucher. Elle devait être une waka, une créature sacrée. « Non, non, non !» cria l'autre. « Elle n'est pas sacrée, c'est un être humain comme nous !» Et il se mit à courir vers elle. Il était maintenant tout près d'elle. La jeune femme lui cria de s'arrêter, qu'il n'avait pas le droit de s'approcher des choses sacrées qu'elle portait. Comme il continuait à avancer, elle posa son paquet par terre. Le nuage de brume se forma à nouveau et dissimula l'homme et la jeune femme. Le deuxième éclaireur entendit un son terrifiant. On aurait dit le sifflement de milliers de serpents. Il vit la femme sortir du nuage. Elle souffla dessus et il se dissipa. Son compagnon avait disparu. La jeune femme lui dit de ne pas avoir peur. J'ai plusieurs choses à transmettre aux tiens, dit-elle. Va à l'endroit où ils se sont arrêtés pour camper et demande-leur de préparer mon arrivée. Construisez un grand cercle avec des branchages en laissant une ouverture à l'est. Au centre, construisez un tipi pour le conseil et à l'intérieur, recouvrez le sol d'une couche de feuilles de sauge. J'arriverai demain matin. Le lendemain, le jeune homme et toute sa tribu l'attendaient près du tipi qu'il lui avait construit. Au bout d'un moment, elle apparut. Elle chantait en marchant. Et un nuage blanc sortait de sa bouche. Je marche d'une façon sacrée. Je marche et mon haleine devient visible. Je marche en chantant. Elle entra dans le tipi avec quelques guerriers, les meilleurs de la tribu, pour leur enseigner les rites sacrés. Elle posa sur le sol le paquet enveloppé dans la peau de bison rouge. Elle en sortit la plante tabac, la plume d'un aigle moucheté, un pivert à tête rouge et un petit morceau de la fourrure d'un bison. Elle tendit un présent au chef. C'était une pipe. Un bison gravé sur le côté représentait la puissance qui nous nourrit et nous protège. 12 plumes d'aigle, comme le ciel et ses 12 lunes, pendaient du tuyau. Le calumet était rempli d'une herbe qui pousserait toujours. « Prends-le, dit-elle. Grâce à lui, vous aurez toujours à manger et vous deviendrez un grand peuple. Il ne peut vous apporter que de bonnes choses, mais il doit rester entre les mains des hommes justes. Les autres ne devront même pas le voir. » Puis elle se remit à chanter. Elle sortit du tipi et alors que tout le monde la regardait s'en aller, elle se transforma soudain en un grand bison blanc qui s'ébroua, partit au galop et bientôt disparut. Je vous propose maintenant un conte iroquois. Un guerrier iroquois de la tribu des Oneida chassait dans la forêt. Un éclair roux fila devant lui, moins rapide cependant que sa flèche. Un chevreuil fit un saut puis tomba, mortellement touché. Le jeune homme se pencha vers l'animal, le couteau à la main pour le dépecer. Mais alors qu'il saisissait les cornes de l'animal, les branches des buissons s'agitèrent et le visage furieux d'un guerrier de la tribu des Onondaga apparut. « Laisse ce chevreuil, Oneida !» lui ordonna-t-il violemment. « C'est mon butin, c'est ma flèche qui l'a blessé en premier, et je veux ses cornes. » Oneida éclata de rire. « Mon frère a peut-être touché ce chevreuil, mais c'est ma flèche qui l'a tué. Cette bête m'appartient, c'est la loi de la forêt. Va-t'en ou bats-toi. » Oneida se redressa et regarda l'autre avec mépris. « Comme tu veux. » Ils se jetèrent l'un sur l'autre. L'Onondagaga était fort, comme un bel arbre de la forêt. L'Oneida, souple comme une panthère. Ils se battaient avec intrépidité. Ils s'affrontèrent jusqu'à en perdre le souffle. La sueur ruisselait sur leurs visages. Alors épuisés, ils s'écartèrent l'un de l'autre. « Hé, on va pas s'entretuer pour un chevreuil. Est-ce que vous manquez de viande à ce point dans ta tribu pour que tu te battes comme s'il s'agissait d'un lion des montagnes ?» « La paix, jeune homme, répondit l'autre. Je ne me bats pas pour un chevreuil, mais pour t'apprendre la loi de la forêt. Je suis plus vieux et plus sage que toi. Allons trouver la reine de la paix. C'est elle qui décidera à qui revient cet animal. » Alors, côte à côte, ils se dirigèrent vers la demeure de la reine de la paix. En ce temps-là, le conseil des cinq nations, qui regroupait les différentes tribus iroquoises, avait désigné une jeune fille, Seneca, Genaska, pour qu'elle devienne la reine de la paix. C'est elle qui devait juger les conflits entre les hommes des différentes tribus alliées. La reine de la paix vivait seule dans la forêt et ne devait pas se marier. Genaska était furieuse d'entendre les deux guerriers continuer à se quereller tout en marchant vers sa maison. « La paix, dit-elle. Si une querelle vous oppose, entrez et asseyez-vous, mais je ne veux pas de cris chez moi. » Les deux hommes se turent. Ils entrèrent dans la maison de la reine de la paix et lui racontèrent pourquoi ils s'étaient battus. Quand ils eurent terminé leur récit, Genasca leur sourit avec mépris. « Deux guerriers, aussi braves que vous, se battre pour un chevreuil !»« Onondagaga, toi qui es l'aîné, parle le premier. Prends la moitié de la bête et rapporte-la à ta femme et à tes enfants. » Mais celui-ci demeura assis sur le sol. « Oh reine, dit-il, ma femme est morte de maladie. Elle est partie sur la terre des esprits. Mais ma maison ne manque pas de gibier. Je voudrais me remarier, tu es belle. Veux-tu venir avec moi ?» La reine de la paix secoua la tête. « Tu sais bien que les cinq nations m'ont désignée et que je ne peux pas me marier. Pars !» L'Onega, à son tour, prit la parole. « Oh reine de la paix, dit-il en regardant Genesca, je sais que tu dois vivre seule, mais je te demande quand même de partir avec moi, parce que je t'aime. » « Toi aussi, je te demande de t'en aller, répondit Genasca. » Mais sa voix n'était plus qu'un murmure. Maintenant qu'ils partageaient le même chagrin, les deux guerriers repartirent bons amis. La reine de la paix avait perdu sa sérénité. Elle ne pouvait oublier le jeune Oneida. L'été vira aux roues, puis l'automne blanchit pour faire place à l'hiver. De nombreux guerriers se succédèrent dans la hutte de Genasca. La jeune fille paraissait calme et heureuse, mais elle ne pouvait plus trouver dans son cœur la paix qu'elle apportait aux autres. Ses pensées allaient vers lui, comme les oiseaux s'envolent à la rencontre du soleil à la fin de l'été. Un jour que, assise devant son foyer où brûlaient de grandes bûches de pin, elle pensait au jeune Oneida, elle entendit soudain un craquement derrière elle. Elle se retourna, le jeune homme se tenait devant elle. « Genasca, je n'ai plus de goût à rien, je ne chasse plus. Les chevreuils peuvent brouter devant moi. Je ne touche plus ni mon arc, ni mon tomahawk. Je n'écoute plus les récits autour du feu de camp. Viendras-tu avec moi ?» Elle répondit « Oui. » Il l'emmena dans son canoë et ils s'en allèrent loin, vers l'ouest. Ils furent heureux, mais pas les hommes des cinq nations. Les guerriers des différentes tribus recommencèrent à se quereller et à se battre. Mais ils avaient compris qu'une fille ne pouvait pas renoncer à aimer un garçon. Alors ils décidèrent que plus jamais ils ne choisiraient une reine de la paix. What a wonderful world. On continue avec nos contes d'Amérique du Nord avec un conte algonquin. Il était une fois deux frères qui vivaient ensemble depuis toujours. L'aîné, Nopatsis, avait épousé une femme odieuse qui détestait son cadet, Akaïan. Elle harcelait son mari sans cesse pour qu'il lui demande de s'en aller. Mais l'aîné, Nopatsis, refusait de se séparer de lui. Ils étaient devenus orphelins très jeunes et avaient affronté ensemble de longues années de privation. Alors la femme de Nopatsis eut recours à une ruse bien connue des femmes dont le cœur est mauvais. Un jour, en rentrant de la chasse, Nopatsis trouva sa femme en larmes, ses vêtements déchirés, ses cheveux défaits. Et elle lui raconta que son frère, Akaïan, l'avait brutalisée. Le mensonge pénétra dans le cœur de Nopatsis et le rendit si lourd qu'il se mit à haïr son frère. Il décida de le faire périr. L'été était revenu et avec lui la saison où les oiseaux d'eau sauvage muent. Nopatsis vivait au bord d'un grand lac, parsemé d'îles où ses oiseaux nichaient en grand nombre. « Nous avons besoin de plumes pour empenner nos flèches. Veux-tu venir avec moi dans les îles ?» Akaïan accepta avec joie et les deux frères se mirent à fabriquer un radeau en rondin, solidement attaché par des lanières en peau de buffle. Le lendemain, ils embarquèrent vers une grande île au milieu du lac. Ils accostèrent et chacun partit chercher des plumes de son côté. Mais au bout d'un moment, Akaïan réalisa qu'il s'était beaucoup éloigné de l'endroit où ils avaient débarqué. Il leva la tête pour voir où se trouvait son frère. Nopatsis s'éloignait de l'île à bord du radeau. Akaïan lui cria de toutes ses forces de revenir. Nopatsis lui répondit qu'il allait mourir abandonné pour avoir maltraité sa belle-sœur. Akaïan jura solennellement qu'il ne lui avait rien fait, mais Nopatsis se contenta de l'injurier et poursuivit sa route. Bientôt, l'embarcation devint invisible. Alors Akayan s'assit sur la berge et se mit à pleurer amèrement. Il implora les esprits de la nature, le soleil et la lune de venir à son secours. Puis il se construisit une cabane de branchages et un lit de plumes très confortable. Grâce aux canards et aux oies qui vivaient dans l'île, Akayan ne manquait de rien. En prévision de l'hiver, il se fabriqua avec leur plumage un vêtement chaud et il apprivoisa de jeunes oiseaux pour pouvoir se nourrir. En explorant l'île dans ses moindres recoins, il découvrit une hutte de castors. Tandis qu'il l'observait avec curiosité, il se rendit compte qu'un petit castor le regardait. « Mon père veut que tu viennes chez lui. » Akayan fut surpris, mais il accepta l'invitation et entra dans la hutte du castor. Le chef de tous les castors l'attendait entouré de sa femme et de toute sa famille. Il avait vécu tant d'hivers qu'il était devenu tout blanc. Akayan lui raconta comment il avait été traité. Le chef des castors le plaignit et lui proposa de passer l'hiver chez lui. Il lui enseignerait beaucoup de choses, des choses merveilleuses et utiles. Akayan accepta l'invitation avec gratitude. Quand l'hiver arriva et que les castors obstruèrent l'entrée de leur hutte, il resta chez eux. Pour qu'il ait bien chaud, les castors le recouvrirent de leur queue épaisse et douce. Et pendant tout l'hiver, ils lui enseignèrent le secret de l'art de guérir, l'usage du tabac, différentes danses sacrées, des chants et des prières qui appartiennent au grand mystère de la guérison. Puis l'été revint, et le chef de castor demanda à Akayan, qui allait quitter la hutte, de choisir un cadeau. Akayan lui demanda son plus jeune enfant, avec lequel il était devenu très ami. Mais le père adorait son petit et ne voulait pas s'en séparer. Mais Akayan insista tant et tant qu'à la fin, le chef des castors lui confia son fils. Il lui demanda de lui construire une hutte sacrée quand il arriverait dans le village où il était né. Peu de temps après, Nopatsis revint dans l'île sur son radeau pour vérifier que son frère était bien mort. Il accosta et tira son radeau sur la rive. Dès qu'il le vit s'éloigner, Akayan saisit le petit castor dans ses bras et embarqua sur le radeau. Quand il arriva dans son village, il raconta son histoire au chef de la tribu. Puis il construisit une maison du castor. Aidé par Petit Castor, il commença à enseigner les mystères de la guérison, ainsi que les chants et les danses qui les accompagnent. Puis il invita les chefs des différentes tribus d'animaux pour qu'ils ajoutent leur savoir à celui du castor guérisseur. Beaucoup d'entre eux acceptèrent. Pendant tout l'hiver, Akayan transmit aux siens son savoir, puis retourna sur l'île avec Petit Castor. Il le rendit à ses parents et il reçut en échange une pipe sacrée. À chaque printemps, Akayan allait rendre visite au castor et chaque fois, il rapportait dans sa tribu un nouvel ornement pour la hutte du castor guérisseur. Ensuite, il se maria et fonda une lignée de guérisseurs qui, de génération en génération, transmit le secret et les cérémonies des castors. Et ce, jusqu'à nos jours. Voilà, c'est déjà fini, il est temps de nous quitter et il est temps de revenir sur Terre, au présent, avec ses plaisirs et ses tourments. N'oubliez surtout pas d'adhérer à votre radio préférée, celle que vous écoutez, celle que vous aimez. La radio a besoin de vous et c'est important. Allez sur le site www.fréquence7.net et c'est fait en quelques clics. En attendant, retrouvons-nous tous les mercredis, tous les samedis à 16h. Et d'ici là, vous le savez, racontez-vous des histoires.